Le journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, il est sur la table de votre petit déjeuner ou dans votre voiture, il est partout. Et nous lui disons non merci, le plastique, ou comment s'en passer. On aimerait ne pas en boire dans l'eau du robinet, c'est pourtant ce qui nous pend aux lèvres. Explication dans un instant et invité de circonstance dans 20 minutes.
Oui, il s'agit de Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Vous pourrez dialoguer avec elle. Je pense que vous serez nombreux au standard 01 45 24 7000. N'oubliez pas les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
À la une également, les bénévoles qui aident les migrants dans le Pas-de-Calais harcelés par l'État. C'est un rapport d'Amnesty International. La misère des hôpitaux français. Plus de naissances à Bar-le-Duc, faute de personnel à la maternité. Les 75 ans du débarquement de Normandie et l'histoire des 4 femmes enterrées au cimetière américain d'Omaha Beach. Et puis bientôt des Césars pour les jeux vidéo. On appellera ça des Pégases. C'est tout nouveau.
France Inter.
Dans ce studio de France Inter, comme chez vous peut-être, les chaises sur lesquelles nous sommes assis sont en plastique, les casques que nous portons sur nos têtes du plastique, les ordinateurs que nous avons devant nous encore du plastique. Il est partout, ce dérivé du pétrole, auquel France Inter et Combini consacrent une nouvelle journée pour lui dire non merci. Non merci, le plastique dans l'eau par exemple, on connaît ces continents à la dérive dans les océans, mais le voilà aussi peut-être dans l'eau que nous buvons, des microparticules dans les réseaux, relâchés en grande partie par nos vêtements à chaque passage en machine. Célia Quiret, voilà qui est inquiétant et sans solution pour l'instant.
À l'entrée des stations d'épuration, il y a entre autres des mégots, des cotons-tiges, mais également des quantités de microplastiques, des particules de moins de 5 mm qui s'infiltrent. Gilles Vincent est le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, dans le Var. Il connaît bien le problème.
On porte tous aujourd'hui des habits qui sont faits avec des textiles plastiques, avec des fibres plastiques. Ils vont passer à travers la machine à laver. On va les retrouver ensuite dans les eaux usées. Ça va arriver aux stations. Le deuxième problème, c'est que la station d'épuration aujourd'hui ne traite pas ces microplastiques. Ils traversent.
Face à cela, des entreprises développent des systèmes de filtres pour enlever ces microplastiques des stations d'épuration. Mais toutes les communes ne sont pas équipées. Nicolas Garnier est le délégué général de l'association Amorce, qui regroupe des collectivités.
Il est clair que le dispositif qu'on a créé ces 50 dernières années n'avait pas prévu cette pollution. Il faut vraiment qu'on intègre ce nouveau paramètre dans la manière de capter l'eau potable. On fait un appel à l'urgence en la matière. On a tendance à voir un peu trop souvent le dauphin avec le sac plastique. Le sujet, c'est pas que le dauphin, c'est vous et moi, dans notre gestion de l'eau au quotidien.
Et en effet, ces microparticules présentes dans les nappes phréatiques peuvent se retrouver dans l'eau potable. Pour certains élus, il faudrait que les fabricants de plastique financent également la modernisation des réseaux d'eau. Les collectivités réclament un plan d'urgence pour éliminer ces microplastiques.
Et du plastique, il y en a aussi dans les pneus de nos voitures. On en jette 200 millions chaque année dans le monde. Bien voilà Michelin qui lance un prototype de pneus increvable sans air comprimé. Il l'a présenté hier à Montréal, avant une possible commercialisation en 2024. Total, non merci, ça c'est ce qu'a dit Anne Hidalgo en substance au géant pétrolier la semaine dernière. Paris se passera de son partenariat pour les Jeux de 2024. Pas compatible avec l'image verte que veut donner la maire de sa capitale, ce qui est complètement idiot, dénonce ce matin un spécialiste des matières premières, l'économiste Philippe Chalmin.
J'avoue, je suis un peu effondré parce que je ne pensais pas que la bêtise pouvait atteindre de pareils sommets. Total est une des plus grandes entreprises françaises, sinon la plus grande en termes de capitalisation. C'est un acteur majeur, effectivement, du secteur de l'énergie. Et oui, c'est un pétrolier, c'est un gazier. C'est aussi un acteur important dans le secteur des énergies renouvelables. C'est donc un acteur incontournable de cette transition énergétique que nous souhaitons tous avoir. On peut s'interroger sur le financement du PSG par le Qatar. Et j'avoue que je comprends mal quelle mouche a piqué Anne Hidalgo, ou du moins je peux le comprendre. Elle est en phase préélectorale. Il lui faut caresser le bobo vert dans le sens du poil, puisqu'elle pense qu'elle pourra peut-être en récupérer le vote. Et donc, toute mesure démagogique à sa disposition est bonne à prendre.
Voilà, la charge 2, Philippe Chalbin, économiste, interrogé par Laurent Kramer.
Il est 8h05, aider les migrants à Calais ou à Grande-Synthe.
C'est s'exposer à des actes de malveillance, à des pressions policières, à des intimidations de l'État. C'est Amnesty International qui dresse la liste des entraves subies par les bénévoles. Son rapport, publié aujourd'hui, les décrivent par le détail, Mathilde Dehimi.
Le rapport d'Amnesty pointe bien sûr les contrôles et heurts avec la police, des téléphones volontairement écrasés, des bénévoles repoussés, parfois violemment, mais il s'attarde surtout sur les entraves du quotidien, une longue liste dont Bénédicte du Secours catholique peut témoigner.
Quand on avait fait venir des Algéco avec les douches, ils ont mis une benne pour qu'on ne puisse plus rentrer. Ça, c'est une des choses. Alors après, on a la demande des papiers aux bénévoles, le dépôt de bouchons plein de clous, le col dans les serrures, les clous lancés dans la cour et le long du trottoir, les pneus crevés, voilà, autant d'actes malveillants.
L'État est le premier responsable de cette situation, estime Katia Roux d'Amnesty International.
C'est des campagnes de dénigrement, des déclarations de personnalités publiques qui visent effectivement à faire passer les défenseurs comme des personnes favorisant l'instabilité, l'insécurité, voire la criminalité dans la région. Il faut que les autorités publiquement s'expriment sur le fait que les personnes qui défendent les droits des personnes migrantes jouent un rôle essentiel sans faire l'objet d'actes d'intimidation ou de harcèlement.
De nombreuses plaintes ont été déposées. Une seule a abouti à des poursuites faute de preuves, d'après le ministère de la Justice. Il faut arrêter l'impunité, écrit Amnesty dans son rapport.
Et ce matin, le Parisien, aujourd'hui en France, révèle le coût des expulsions forcées d'étrangers. 500 millions d'euros payés par l'État l'an dernier, selon un rapport parlementaire. 11 millions d'euros de dépenses suspectes. Renault a fait les comptes depuis l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon. Ces 11 millions concernent une filiale Renault-Nissan des Pays-Bas. Le constructeur envisage de poursuivre son ancien patron. Par ailleurs, le parquet financier a ouvert une enquête sur des contrats passés entre cette même filiale et l'ancienne ministre Rachida Dati, ainsi que le criminologue Alain Bauer. Ils auraient tous les deux touché plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une actionnaire de Renault qui a porté plainte. Quant à sa réponse sur l'offre de fusion de Fiat Chrysler, Renault ne l'a pas donnée hier. Le conseil d'administration du constructeur se réunira de nouveau aujourd'hui.
Il est 8h07, Florence. Il devrait reprendre le travail ce soir après 48 heures d'arrêt maladie.
Arrêt politique pour ces 11 infirmiers et 3 aides-soignantes de l'hôpital Lariboisière à Paris, en grève depuis plusieurs semaines dans leur service des urgences de nuit. Jusque-là, ils portaient simplement un brassard et tenaient leur poste avec le sentiment de ne pas être écoutés sur le manque de moyens qu'ils pallient comme ils peuvent. Et du personnel et des moyens, il en manque cruellement à la maternité de Bar-le-Duc dans la Meuse. Elle va fermer à partir du 24 juin, a annoncé hier l'Agence régionale de santé, pour se transformer en centre parents-enfants. Les femmes du secteur devront aller accoucher à Saint-Dizier ou à Verdun, soit à 25 ou 45 minutes de chez elles. C'est une question de sécurité, explique Jérôme Gomine, directeur général du groupement hospitalier Cœur Grand Est.
Nous n'avions plus de pédiatres depuis novembre 2018. Concrètement, nous avions donc des intérimaires qui intervenaient sur l'hôpital, avec deux risques majeurs pour nous. Le premier, c'est qu'un intérimaire peut au dernier moment se décommander. C'est arrivé 10 fois depuis janvier 2019. Nous avons dû trouver des solutions dans la journée ou la veille, avec un risque de fermeture des activités, qui est bien sûr encore plus nocive pour nos usagers, enfants ou mamans. Le deuxième risque, c'est que de travailler avec des intérimaires qui se succèdent, c'est qu'il n'y a plus d'harmonisation des pratiques médicales, il n'y a plus de continuité des soins, il n'y a plus de transmission des informations sur nos patients, ce qui engendre des risques, puisque les professionnels ne peuvent plus se parler. Conscients de ce risque, les professionnels ont dit stop à la situation actuelle et ont souhaité travailler à un projet alternatif depuis le mois de mars et qui s'est finalisé ce dernier mois.
Jérôme Gomine du groupement hospitalier du secteur de Bar-le-Duc au micro d'Angeline Demuinck de France Bleu Sud-Lorraine. Voilà donc pour cette maternité qui va se transformer puisqu'Emmanuel Macron a promis qu'il n'y aurait aucune fermeture d'hôpital jusqu'à la fin du quinquennat. Et pour maintenir des services publics sur le territoire, le président a aussi annoncé la création de maisons France Service dans tous les cantons. Il y en a déjà 1300. Et ce matin, Édouard Philippe réunira plusieurs ministres pour les étoffer, Yael Gauze, et pour en ouvrir 500 nouvelles.
Le dispositif n'est pas nouveau, il remonte aux années Jospin, mais le niveau d'exigence est sérieusement revu à la hausse. Concrètement, pour décrocher ce label Maison France Service, il faudra remplir un cahier des charges strict et offrir un bouquet minimum de services. Au moins 9 partenaires représentés au guichet, la Poste, Pôle emploi, les impôts, la CAF ou encore l'assurance maladie. Mais aussi des agents capables de délivrer une information de base, par exemple si vous avez perdu vos identifiants internet, capables aussi de vous trouver un rendez-vous express avec le bon conseiller, d'aider une personne âgée qui ne maîtrise pas les outils numériques ou de mettre à disposition des imprimantes comme on le ferait dans un cybercafé. Déjà 1300 maisons aujourd'hui, 500 de plus d'ici à 2022. L'objectif est de mailler le territoire pour que tout le monde en bénéficie à moins de 30 minutes de chez soi. C'est Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, qui pilotera la réforme. Un mix entre décentralisation et déconcentration, c'est l'obsession d'Emmanuel Macron. Le temps 2 du quinquennat doit être celui du changement perçu au quotidien grâce à une administration plus proche des gens afin de lutter contre ce sentiment de relégation exprimé lors de la crise des Gilets jaunes.
Gérard Collomb a-t-il fait profiter son ex-femme d'emplois municipaux à Lyon depuis plus de 20 ans? Selon le Canard enchaîné, la justice a ouvert une enquête préliminaire sur la foi d'un rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes. Gérard Collomb dénonce une cabale politique à 10 mois des municipales.
Les plages du débarquement demain, celles de l'embarquement aujourd'hui.
75 ans après, Emmanuel Macron, Donald Trump, Justin Trudeau et Theresa May ont rendez-vous à Portsmouth. De là-bas, des milliers de soldats alliés sont partis pour la France, dont certains reposent sous la terre du cimetière d'Omaha Beach. 9000 tombes, 8996 hommes et 4 femmes seulement, dont Béatrice Duguay va pour la première fois nous parler.
Leurs tombes, semblables aux autres, sont disséminées dans ces hectares paisibles, raconte Stéphanie Lebris, guide au cimetière américain de Normandie.
On a deux dans le carré A, une dans le carré D, une dans le carré F. Voilà, elles sont avec les hommes.
Elles s'appelaient Marie Barlow, Dolores Brown, Mary Bankston et Elizabeth Richardson, toutes âgées d'une vingtaine d'années. Les trois premières étaient postières, membres du 6888e bataillon postal, une unité de femmes afro-américaines, précise Karen Lancel, troisième génération de sa famille, qui travaille à Omaha.
Les troupes se déplaçaient très rapidement. Rapidement et mission très très difficile. Néanmoins, elles vont mettre en place les 3-8, elles vont travailler 7 jours sur 7 pour que le courrier puisse être le plus rapidement acheminé vers les soldats.
Elizabeth Richardson, elle, était civile à la Croix-Rouge. Sacré tempérament apparemment.
Elle était là pour remonter le moral, discuter avec les soldats, les aider à faire face au manque de la maison, de la famille, pour leur donner le courage d'aller au front.
Elle partait avec deux copines et un chauffeur à la rencontre des soldats qui s'entraînaient dans les campagnes anglaises. Et là, c'était l'occasion de leur distribuer du café, des chewing-gums, des cigarettes ou encore ces célèbres beignets américains, ces fameux donuts. Donc Elizabeth était surnommée la Donut Dolly, ce qui veut dire la poupée aux donuts.
Après avoir évité les balles et les bombardements, nos héroïnes sont mortes dans un accident de la route et dans un accident d'avion, un jour de juillet 45 en Normandie.
Du débarquement de juin 40, l'industrie du jeu vidéo s'est emparée plusieurs fois, notamment dans Call of Duty, les jeux vidéo qui n'avaient pas leur récompense, ni César, ni victoire, mais ce temps-là est révolu. Il y aura bientôt des Pégases du jeu vidéo. France Inter vous le révèle avant l'annonce ce matin du syndicat national du secteur. Une vingtaine de prix seront donc remis lors d'une cérémonie de gala retransmise à la télévision. L'objectif, Olivier Bénis, c'est de séduire le grand public et de convaincre qu'un jeu peut aussi être une œuvre d'art à part entière.
Le protéger.
Ça, c'est A Plague Tale, l'un des plus gros succès mondiaux du jeu vidéo en 2019. Un jeu 100% français, réalisé par un studio bordelais. Car si les Français aiment le jeu vidéo, ils sont 3 sur 4 à jouer de manière occasionnelle, ils ne savent pas toujours que leur pays est en pointe dans le domaine. Julien Villedieu, délégué général du SNJV.
Aujourd'hui, le jeu vidéo est la première industrie culturelle dans le monde. Très peu de joueurs dans le monde, voire même dans notre pays, concrétisent finalement leur pratique en imaginant jouer à des créations qui sont fabriquées sur notre territoire. Donc c'était important pour nous de pouvoir valoriser des entreprises françaises qui créent ces jeux et qui ont un rayonnement international.
Nous sommes ceux qu'on ne voit pas.
D'où cette idée d'une grand-messe annuelle du jeu vidéo, avec une vingtaine de prix remis pour récompenser par exemple le scénario, les visuels, l'ambiance sonore ou l'expérience narrative. Soirée de gala, retransmission télévisée, palmarès voté par les professionnels du domaine. Le concept fait tout de suite penser au César, et ce n'est pas un hasard.
Vous savez, le jeu vidéo est au 21e siècle ce que le cinéma a été au 20e. Ce qui est important, c'est effectivement d'indiquer, de montrer ce que cette industrie aujourd'hui crée en termes d'emploi, en termes de valeur, mais aussi en termes de création culturelle et artistique.
Les premiers Pégases du jeu vidéo seront remis début 2020, des statuettes réalisées par un artisan, lui aussi made in France.
Federer, Nadal, maintenant eux aussi, ils ont leurs personnages dans des jeux vidéo, mais le vrai spectacle, ce sera vendredi à Roland-Garros pour la rencontre en demi-finale entre ces deux monstres du tennis qualifiés hier facilement pour Nadal face à Nishikori, plus sportivement pour Federer face à son compatriote Wawrinka. Nadal, Federer, ces deux-là ne se sont plus croisés sur terre battue depuis 2013. En attendant, on suivra aujourd'hui les derniers quarts de finale. Djokovic, Zverev et Tim Kachanov. Chez les dames, la Britannique Johanna Konta affrontera la Tchèque Vondrousova en demi. À suivre aujourd'hui, Simona Halep contre l'Américaine Anisimova et Madison Keys, aussi une Américaine, contre l'Australienne Ashleigh Barty.
Il est 8h15, on finit avec le Livre Inter, Florence.
Bah oui, parce que le D-Day du Livre Inter, c'est ça dimanche
approche.
Pour les auteurs du prix. Et on continue à vous les faire entendre ce matin, Sarah Chiche. Son livre s'appelle Les Enténébrés, publié au Seuil, histoire d'une passion amoureuse, enquête sur une famille prise dans les tourments du passé et du présent.
C'est le long rêve ou le cauchemar, peut-être, d'un climat où tout brûle, les villes dévastées par le réchauffement climatique, par la violence sociale. Et c'est notre monde où, dans ce contexte de dévastation, de désolation, les cœurs brûlent aussi. Donc le monde s'embrase, mais une femme va s'embraser aussi par amour pour un homme qu'elle va rencontrer alors qu'elle fait un reportage sur l'arrivée des réfugiés en gare de Vienne. Et ce que je voulais raconter, c'est comment, quand l'amour nous tombe dessus, il est le lieu d'une vérité, c'est-à-dire comment est-ce que tout à coup, par la grâce de l'amour, on peut avoir accès à des vérités sur l'autre, mais aussi à des vérités sur nous-mêmes. Cette histoire, Les Enténébrés, c'est l'histoire de ce qui se passe quand on découvre que ce qu'on prenait pour la vérité dans l'histoire familiale cache au fond un mal absolu.
Voilà, Ténébreux, Livre Inter, nous aurons le lauréat lundi prochain,
dans
ici
le
même, voilà,
oui.
Dans le 7-9. Et puis Sarah Chiche, vous pouvez l'entendre comme tous les jours, comme tous les auteurs dont nous vous passons les interviews signées Eva Bétan en longueur sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos.